Bienvenue dans La Lumière d'une rencontre, le podcast de la revue Ombre et Lumière, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, nous vous proposons une rencontre pour prolonger le dossier de notre magazine. Un témoin concerné par le handicap ou la maladie nous partage son histoire à traverser par l'épreuve et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Pour commencer, à l'occasion du numéro de juillet dont le dossier est consacré à la paternité, Guillemette de Préval a tendu le micro à Jean-Baptiste de Fombelle.
Jean-Baptiste de Fombelle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'accepter de témoigner pour ce premier podcast, premier épisode du podcast d'Ombre et Lumière. Donc nous sommes à Chambéry, aujourd'hui, dans les locaux de votre bureau à Bayard Service, où vous travaillez. Vous avez eu auparavant donc une belle carrière de journaliste dans différents médias. Mais aujourd'hui, c'est en tant que père que nous vous écoutons à notre micro. Vous avez 51 ans et êtes l'heureux papa de 8 enfants, 7 garçons, suivi d'une fille, Claire-Marie. Et donc, atteinte d'une trisomie 13, elle est décédée 3 mois après sa naissance, en 2012. Nous allons donc essayer de retracer ensemble cette histoire familiale et surtout essayer de comprendre comment vous avez traversé cette épreuve en tant que père. Car les papas d'enfants handicapés, comme c'est le cas pour vous, endeuillés, on ne les entend pas toujours beaucoup. Alors, est-ce que ce serait plus difficile de parler de ces émotions pour un père ?
Je ne sais pas si c'est plus difficile de parler de ces émotions quand on est un papa. On peut aussi avoir une psychologie et des aptitudes à parler assez facilement. Moi, je suis d'un genre qui parle assez facilement. Je suis même parfois considéré comme bavard. En revanche, je pense que c'est... ensuite, ça va être de l'ordre de ce qui se passe en moi, à l'intérieur. Et effectivement, notre condition d'homme, parfois, nous amène à appréhender ces moments de vie, ces événements, en l'occurrence moi, donc le handicap de notre fille, mais ensuite son décès. Je pense pas que je l'ai vécu de la même façon que ma femme. Et de fait, effectivement, on a peut-être moins de lieux et d'occasions d'en parler. Peut-être moins de facilité pour certains à en parler. Et donc, ça va nous prendre plus de temps de construire, de se construire ou de se reconstruire ou de construire notre petit chemin. Ça va peut-être être un peu plus long. Mais... Je ne pense pas que ce soit forcément plus difficile. Mais en revanche, il faut trouver les lieux, il faut trouver les moments, les occasions. Et on n'a peut-être pas, nous, les papas, toujours cette capacité à sauter sur les occasions, comme par exemple ma femme est capable de le faire.
On pourra effectivement reparler de la différence, peut-être, de comment vous avez chacun, votre femme et vous, vécu... tout ça et l'importance du lieu. Vous allez effectivement pour la première fois organiser une randonnée des papas, enfin expliquer tout ce que c'est.
Alors l'idée effectivement qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais qui vient d'un papa qui a eu cette envie et ce besoin parce que lui justement se disait il n'y a pas véritablement de lieu où nous les papas on peut échanger librement entre nous, entre papas, sachant qu'effectivement on a peut-être des chemins différents mais à peu près tous le même vécu. Et il a, voilà, ayant perdu un enfant, il s'est dit ma femme trouve plus facilement que moi ces lieux-là, elle a plus de facilité et d'opportunités. Moi, je suis un peu bloqué, j'ai un boulot qui m'empêche aussi peut-être de vivre exactement le même parcours et le même cheminement. Pourquoi pas organiser un pèlerinage, un temps d'un week-end entre hommes, conviviale, qui nous permette aussi de faire une pause, une halte presque à la fois humaine, spirituelle, amicale, et qui nous permette de dire, de nous dire et de dire aussi ce que nous vivons depuis la perte de notre enfant, le chemin qu'on a parcouru. Et c'est né comme ça, et donc ce pèlerinage donc, s'est organisé. On est une vingtaine à partir marcher.
Voilà. Donc ça s'appelle Entre Père et Ciel, c'est ça ?
Voilà, Entre Père et Ciel, voilà. C'est un peu l'idée de cette démarche.
D'accord. Peut-être revenir plus factuellement dans l'ordre des choses. Revenons voilà, en 2012. Donc, avec votre épouse, vous avez donc 7 garçons. Et voilà, donc j'imagine qu'apprendre d'abord l'arrivée d'une petite fille pour compléter cette fratrie a d'abord dû être une joie.
Bien sûr, bien sûr.
Et
une joie, une surprise aussi, il faut le dire aussi. mais c'est un petit bébé qu'on n'avait pas particulièrement vu venir et qui s'est pointé, qui a dit coucou, je suis là, en l'occurrence. Mais une vraie joie parce que c'est toujours une joie d'accueillir la vie et de voilà passer les moments de se dire comment on va faire, est-ce qu'on n'est pas un peu fou et est-ce que comment on va faire parce que là mine de rien il va falloir changer de voiture. On va être assez nombreux. Voilà, passer ce moment-là, c'est une vraie joie et on l'a vécu comme quelque chose à recevoir, quoi. Voilà. Mais c'était au départ pas complètement le projet.
Mais une voilà. Surprise donc. mais voilà, malgré tout, j'imagine que ça a été quand même vite. Enfin, lorsque vous avez appris. Cette anomalie chromosomique, que ça a dû être brutalement un choc pour vous. Et peut-être comment racontez-nous, comment vous avez vécu
l'annonce est très brutale. Elle est d'autant plus brutale que donc elle n'a pas été très habile et très adroite. Pour nous, on allait à ce rendez-vous chez l'échographiste pour cette première échographie, comme les parents se rendent à la première échographie, qui est toujours un moment très presque magique. Ces hommes ou ces femmes en blouse blanche qui tout d'un coup vous font apparaître la vie sur un écran de télé, il y a presque quelque chose de magique. Assez rapidement, en fait, il y a eu un espèce de silence qui nous a un peu intrigués. On connaissait ce médecin, puisque par définition, il nous avait pas mal accompagnés sur les grands frères de Claire-Marie. Mais en fait, ce silence et cet air fermé, assez rapidement, ne m'ont pas dit que des choses très, très bonnes. Et puis au bout d'un moment de silence, il a reposé un peu fermement son matériel. Il a posé les mains sur les genoux et il a fait reculer son fauteuil à roulettes. Et il a dit « Je ne vais pas aller plus loin ». Et « Je ne vais pas aller plus loin » pour nous, c'était quand même quelque chose qui voilà, on l'a interrogé, on lui a dit « Mais pourquoi ?» Il a dit « Parce que je pense que cet enfant n'a pas présente des signes d'une anomalie chromosomique. Je pense à une trisomie 13, je pense à une trisomie 18, ou éventuellement peut-être une trisomie 21 ou une maladie cardiaque grave, mais je vois déjà qui a des signes. On lui a dit, mais c'est quand même notre enfant. Et donc là, il nous a arrêté un peu fermement en nous disant, pas de dogmatisme. Vous ne savez pas ce que c'est que l'accueil d'un enfant handicapé. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être grand frère d'un enfant handicapé. Et vous ne savez pas ce que c'est aussi que si c'est une maladie létale, que de voir partir son enfant, mourir son enfant, ça a été assez violent, très violent, très, très pour nous déstabilisant, d'autant plus qu'il a fait pivoter son fauteuil vers le bordereau qu'il s'apprêtait à remplir pour lancer une procédure qui, selon lui, ne pouvait que nous emmener vers une interruption médicale. Pour nous, ça a été extrêmement violent, mais ça a été en même temps comme un espèce d'électrochoc et un révélateur que non, en tout cas, c'était pas notre projet à nous. Et qu'il y avait là le cœur d'un enfant qui battait, qu'il y avait là notre enfant, la chair de notre chair, et qu'on ne pouvait pas envisager. Donc en fait, ça a été pour nous aussi comme une mise en route et comme une évidence. Voilà. Cet enfant, on allait l'aimer, on allait l'accompagner, on allait le faire grandir, le laisser vivre, et puis vivre cette vie, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit plus longue, mais qu'elle soit pleine et entière, quoi. Et voilà, l'annonce elle-même est un moment qui reste très très assez douloureux. J'ai longtemps eu une forme de colère parce que cette annonce m'avait été faite de cette façon, et en même temps je sais à quel point ça m'a aussi construit par la suite. Mais je pense souvent aux parents qui pourraient se retrouver exactement dans cette situation, mais qui ont peut-être pas la même réaction et qui sont du coup entraînés dans une logique.
Par la peur.
Par la peur, par l'assurance d'un médecin en face d'eux qui leur affirme presque ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors c'est notre expérience à nous, bien évidemment, c'est une expérience très personnel, et j'espère bien que c'est pas le cas tout le temps, et voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on a vécu, en tout cas, l'annonce.
Et vous en aviez déjà parlé avec votre épouse, voilà, l'éventualité par exemple d'avoir un enfant handicapé, est-ce que vous connaissiez aussi dans votre entourage?
Dans notre entourage, quand le médecin a évoqué la possibilité que ce soit un enfant qui est atteint de trisomie 21 par exemple, tout, dans notre entourage, on connaît pas mal d'amis, etc., qui sont soit atteints, soit qui ont un enfant atteint de trisomie 21. Et la trisomie 21 ne nous effrayait, et ne nous effraie d'ailleurs toujours pas du tout. Et la joie et le bonheur qui se lient dans les familles, même si on a bien conscience de ce qu'elles vivent, on savait que voilà. Et puis on savait qu'on peut vivre avec une trisomie 21. La trisomie 21, donc, ne nous inquiétait pas, et on s'est tout de suite un peu, peut-être même rassuré, en se disant, mais c'est une trisomie 21, et donc c'est, voilà. Et il s'est trouvé que c'était une trisomie 18, et non pas une trisomie 13, comme vous avez dit dans l'introduction, mais une trisomie 18, et que donc, elle était de toute façon létale. La trisomie 18 ne permet pas de vivre plus de, à l'époque, les médecins nous ont dit, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, mais d'accord, c'était vraiment pas du tout assuré, garanti.
D'accord. Et vous, la grossesse a suivi son cours. Comment vous avez vécu un peu cette attente, mais donc fragile en même temps, à la fois en tant que soutien et en même temps de votre femme, de vos enfants, et en même temps alors que vous-même étiez éprouvé,
c'est vrai que c'est un moment, qui est pas facile. Il faut arriver à rentrer dans cette nouvelle. D'abord, il faut réaliser qu'on n'est pas en train de faire un mauvais rêve, un cauchemar. Je me souviens du réveil le lendemain matin de l'annonce. Non, effectivement, j'avais pas rêvé. La réalité était bien là. Et il y a cette. Je pense que les parents qui ont vécu ça peuvent aussi en témoigner. Il y a, y a, euh, il y a ce démarrage où effectivement il faut chaque jour se redire c'est la condition que, dans laquelle je suis, que je traverse, je dois l'accueillir et je dois la transformer. Il y a quelque chose qui doit se passer parce que c'est pas possible, on peut pas juste subir, il faut la transcender presque cette situation. Et donc voilà, il a fallu donc poser des petits pas les uns après les autres. Il a fallu aussi tenir ma place de papa, en l'occurrence, enfin d'époux d'abord, mais ça c'est assez naturel. J'ai la chance d'avoir de former avec ma femme un couple assez harmonieux à ce niveau-là, où on s'équilibre très bien, on vit à peu près les mêmes, avec la même intensité, la même envie. Et à peu près la même vision et la même conception des choses. Donc on a beau être l'alpha et l'oméga dans notre couple, pourrait témoigner beaucoup de gens, sur l'essentiel on se retrouve. Voilà, on a réussi là-dessus, c'était aussi une chance, et l'un venait au secours de l'autre quand il en avait besoin, mais c'était pas là qui était le plus difficile. À la rigueur, le plus difficile pour moi était de tenir ma place de père, oui, de mes autres garçons. Tout en travaillant, au début pas, parce que heureusement j'avais la chance que mon entreprise m'ait vraiment totalement donné une grande latitude, du temps pour me préoccuper d'abord et avant tout de ma famille. Mais c'est vrai que voilà, il a fallu assumer ce rôle de père, ne serait-ce que pour l'annoncer. Au tout départ, le premier soir, l'annoncer aux enfants, c'est voilà, il y a des choses qui sont pas faciles, il y a des mots à trouver. On a réussi, je pense, à les faire rentrer dans notre approche à nous, dans notre dynamique. Et de ne pas être effondré, même si après on s'adresse à des enfants et on sait très bien qu'en face de nous, voilà, on a des, il peut y avoir effectivement une fragilité qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas, et il faut en être très conscient et très vigilant. Il faut ne pas laisser s'installer une souffrance non dite chez l'enfant, et là-dessus il a fallu qu'on soit aussi assez vigilant. Longtemps après, aussi après, parce qu'après il y a aussi tout le travail de deuil, mais c'est pas le sujet, mais c'est important de l'accompagner, ça. C'est pas juste l'affaire d'un jour. Mais c'est vrai qu'ensuite, tenir ma place a pas été non plus si compliqué que ça. En revanche, il faut arriver à mettre des mots, il faut arriver à exprimer, à trouver les mots pour qui nous aident. Alors moi, en plus, qui suis un homme de mots, qui écrit, qui suis un homme de la parole, qui suis pas du tout un scientifique, j'ai besoin justement que ces mots m'accompagnent et m'aident à rentrer au plus profond de ce que je vis, c'est-à-dire à nommer ce que je ressens, mes émotions, même physiquement. C'était pour moi important. Donc j'ai commencé d'ailleurs à écrire, j'ai commencé à prendre des notes. C'était important pour moi d'arriver à reformuler. D'accord. Parce qu'on ressent beaucoup de... Il y a une espèce de tambour, de machine à laver qui vous secoue. Mais en même temps, il faut arriver ensuite à prendre le recul qui va vous faire nommer vos émotions, ce que vous ressentez, ce qui est fragile en vous, ce qui, au contraire, a l'air d'être bien assuré et conforté. Voilà, c'est un moment charnière, même si effectivement, c'est presque toute une vie qu'il faut ensuite pour trouver les mots exacts.
Vous me disiez effectivement que vous étiez, enfin, vous ébauchiez un peu un texte sur.
J'ai effectivement, donc on a pris pas mal de notes avec mon épouse, pas mal de, on écrivait parce que c'était important, voilà. Ma femme Je l'appelle parfois Madame Post-it, donc c'était assez naturel chez elle. Moi, en tant que journaliste, effectivement, aussi prendre quelques notes. Le travail d'écriture a commencé pour moi après, parce que là, pour le coup, après la mort de notre fille, il a fallu du temps, mais j'avais besoin de laisser décanter un peu les choses en moi pour qu'un jour ces mots reviennent. Et en fait, je me suis aperçu que l'exercice n'était pas du tout évident, parce que non seulement parce que les mots faisaient presque ressortir la mémoire et même la mémoire du corps, je me suis retrouvé à revivre en les écrivant des moments, des sensations, même des douleurs presque intérieures qui m'avaient traversé sur toute cette période-là. C'est un vrai travail dont je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Et que je me disais, je vais rédiger pour mes futures belles-filles, pour moi, un peu l'histoire de ce que on a vécu. Et en réalité, j'y suis toujours. Après 8 ans, je suis toujours en train de petit à petit, de poser mot après mot, comme on pose un pas après l'autre.
Revenons peut-être au moment où votre fille naît. C'est quelle date
Alors elle naît elle se laisse désirer. On l'accompagne pendant toute la grossesse avec des équipes médicales formidables à Port-Royal qui en fait un peu désarmées au départ nous ont en fait laissé prendre en main un peu le rythme et la façon dont on voulait y aller. Et qui n'ont fait presque que nous écouter tout au long de ces rendez-vous, tous les 15 jours avec eux, les équipes, etc. Un médecin, c'est pas naturel pour lui. Il a besoin de vous mettre sur des rails pour vous faire partir sur un protocole et puis le suivre. Et là, tout d'un coup, on cassait tous les protocoles parce que, en gros, on disait, on laisse les choses se faire et on vit du mieux qu'on peut ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ça s'est transformé en échange et en dialogue. Très, très riche. Très, très riche, très, très fort. Je pense même qu'il y aurait quelque chose à faire et à dire exclusivement sur ce sujet, sur la relation avec les équipes médicales pendant une grossesse comme celle-là. Et puis la naissance il faut vivre l'instant. La naissance est un moment le 10 juillet 2012, date anniversaire de notre mariage, donc que notre fille est attendue parce qu'elle s'est laissée désirer encore quelques jours après le terme. Déjà, je trouvais ça plutôt un signe, cet enfant qui était tellement fragile qu'on nous disait qu'elle pourrait même ne pas voir le jour avant sa naissance, qui a préféré attendre pour fêter notre anniversaire de mariage le 10 juillet. Ce 10 juillet, cette intensité parce que là, pour le coup, à partir de maintenant, il y avait comme une forme de compte à rebours qui commençait. On nous avait tellement dit que ça pouvait vraiment être très rapide que on était tous dans sa chambre. On a baptisé Claire-Marie 2 heures après sa naissance. On était 14 dans cette chambre de réanimation, tous en blouse bleue déguisés en schtroumpf. Mais des moments très intenses, avec aussi un accompagnement formidable de plein de monde qui se sont agrégés un peu comme ça autour de nous, à la fois avant la grossesse pendant la grossesse après la naissance ensuite on est rentré quand même dans cette période où pendant un tout petit mois, au milieu de l'été 2012, on était dans cette chambre de réanimation qui avait été un peu aménagée pour Claire-Marie, c'est-à-dire en fait plus un accompagnement en soins palliatifs, on va dire, donc très allégé, avec un personnel qui passait vérifier, voilà, mais sans acharnement thérapeutique, juste un protocole léger et doux. Et puis nous, dans cette chambre, moi j'avais mon lit juste à côté d'elle, mon épouse faisait les allers-retours et puis ensuite elle s'est installée, ils lui ont trouvé une chambre à l'étage pour qu'elle puisse être encore plus en proximité, donc ça aussi c'était une vraie chance. Mais pour nous, c'est vrai que c'est voilà, un moment très fort où on voulait profiter de la vie et de sa vie avec elle, lui donner cette chance de la vivre. On fêtait son anniversaire tous les jours. C'était un principe. On s'était chaque dit, jour, chaque jour va compter, il va peut-être compter comme une année. Disons qu'on fête son anniversaire tous les jours. Donc on fêtait son anniversaire tous les jours, alors avec chant et tout, jusqu'au jour où les enfants nous ont dit, écoutez, là, elle est en train de dépasser nos âges respectifs. On pourrait peut-être ne le faire que toutes les semaines. Mais voilà, ça faisait partie un peu des rituels dans cette chambre de réanimation, qui a ensuite donc été suivi de on a quitté l'AREA, on est passé en hôpital pédiatrique chez nous, pas loin de chez nous, et puis ensuite à la maison. Et ça, le retour à la maison, c'est encore quelque chose de très très différent, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu en fait. On ne s'était jamais dit qu'on allait revenir avec Claire-Marie à la maison, en fait. Et du coup, il y a une forme de il y a une joie, il y a une voilà, il y a une grande, il y a une grande émotion et en même temps une grande joie. Donc on est revenu à la maison et donc Claire-Marie a pu vivre aussi une vie tout à fait normale entre guillemets avec nous. Normal étant effectivement entre guillemets parce qu'elle était, elle garde ce handicap, elle a, la trisomie 18, c'est un peu comme si l'ordinateur de bord était un peu déréglé et se mettait de temps en temps à bugger. Donc en réalité, là par exemple, tout ce qui était déglutition, avaler quand elle se nourrissait était quasi impossible. Donc il fallait vraiment y aller très progressivement et un peu tout le temps.
Et justement, quand vous disiez vous saviez que le compte à rebours était un peu lancé, comment voilà, on se sent père, pleinement père, devant voilà, tant de fragilité, cette fragile vie qui vous était confiée ?
Alors en réalité, il y a un moment où on se sent vraiment pleinement père. On est père, tellement père que justement, on se donne à ce que vit notre enfant, à le soutenir, à le soulager, à l'aimer. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais avec ce souci aussi en arrière-plan quand même de toujours veiller aussi à être père des autres aussi en même temps. C'est d'ailleurs pas évident. Comment je fais pour être papa de ma fille quasiment 24 heures sur 24 et en même temps de mes 7 garçons qui eux aussi sont en souffrance, en attente. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était une difficulté. Mais être père de Claire-Marie, c'était vraiment pour moi totalement... C'était naturel, en fait. Je vois pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'effectivement elle a besoin de beaucoup plus de présence, d'attention, de disponibilité, et de vigilance. Mais on est dans ces cas-là dans une situation de quasi normalité, en tout cas dans la relation de père à fille, Ma femme avait besoin de se reposer aussi. Et donc, en fait, j'ai... Mais comme tout papa dans ces situations-là, enfin, tout papa... comme beaucoup de papas dans ces situations-là, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bon, bah, pendant 9 mois, on n'a rien pu faire. On va pouvoir enfin s'investir et on va pouvoir faire quelque chose, agir, le porter un peu, cet enfant. Et donc, en fait, je pense que c'est assez naturel, en tout cas chez nous, ça l'a été. On s'implique et on porte un peu plus. Par exemple, je disais à ma femme d'aller se coucher, d'essayer de dormir un peu la nuit ou la journée, mais la nuit surtout, pour arriver à tenir. C'était quand même important. Voilà. Et donc, pour ça, nous, les papas, on peut prendre sur nous. Bon, jusqu'au moment où c'est plus tenable et où on est tellement épuisé qu'on change d'organisation. Mais ça aussi, ça peut jouer. Notre rôle de père, on le fait assez naturellement dans toutes ces circonstances, qu'elles soient matérielles, aussi même affectives. C'est-à-dire être consolant, être réconfortant pour nos enfants comme pour ma femme, par exemple.
Et quand vous dites que vous avez tenté de prendre ce relais à la naissance de votre fille, est-ce que vous vous autorisiez quand même des petites échappatoires,
certains pères? C'est la grande difficulté, c'est d'arriver dans ce contexte bien précis où en fait chaque minute est un moment riche parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait la suivante. J'ai souvenir, par exemple, j'ai dû avoir un entretien pour le travail, il fallait absolument que j'aille rencontrer le directoire pour un rendez-vous professionnel important. C'était pour moi... toute une histoire, comment je faisais pour consacrer 2 heures à ce rendez-vous alors que je pouvais donc ne pas être là si ma fille venait à mourir. Donc c'est vrai que c'est une façon un peu compliquée d'avancer, mais en même temps, plus ça va aussi, plus on est dans l'abandon. Plus on est dans la confiance et plus on se dit, je ne peux pas tout maîtriser, je ne peux pas tout savoir et je ne peux pas tout connaître. Donc, je ne sais d'ailleurs plus quelle était votre question de départ, mais...
Le fait des échappatoires.
Alors voilà, après il faut les trouver, ces échappatoires. Il faut, par exemple, je parlais des enfants tout à l'heure, il faut aussi pouvoir se consacrer un peu à eux. Donc là, j'ai tout fait pour essayer de vivre ces temps-là avec eux, même s'ils n'étaient jamais très longs. Et il faut dans cette c'est vrai que c'est un vrai pour moi c'est un vrai poids et ça l'est encore aujourd'hui. Comment on fait pour être aussi le papa des autres, sachant qu'ils étaient formidables et qu'ils s'investissaient eux aussi, mais je les ai emmenés faire des balades, des tours, on a pris du temps pour jouer avec les petits notamment, Et puis c'était une période estivale qui a fait que ils ont pu quand même être pas mal en vacances chez leurs enfants, chez leurs grands-parents pardon. Et donc là aussi le calendrier a joué un peu pour nous, en tout cas pendant les 2 mois d'été. Mais ensuite, il y a une vie quotidienne qui a recommencé en septembre-octobre, qui a fait qu'effectivement, là, il fallait être très présent. Il y avait la rentrée scolaire, il y avait beaucoup de choses. Donc là, pour le coup, c'est là qu'on a dû vraiment avoir du temps aussi pour eux.
Et donc, effectivement, l'été passe, la rentrée...
Et puis bien. Voilà, la rentrée a eu lieu. En fait, Claire-Marie a commencé à vraiment. Elle a eu un mois d'août qui était vraiment bien. On a vécu un très beau mois d'août. Et puis à partir de mi-septembre, sa santé a commencé à se dégrader avec des difficultés de plus en plus. Il a fallu l'intuber parce que sinon vraiment c'était elle n'y arrivait plus. Des choses qui effectivement nous montraient qu'il y avait des signes déjà d'affaiblissement avec des hospitalisations un peu régulières, des allées et venues avec la maison et l'hôpital. Aussi avec pour moi la reprise d'un travail avec des nouvelles responsabilités. Je devenais rédacteur en chef d'un magazine. Je passais la nuit à l'hôpital ou à la maison à dormir un quart d'heure, une demi-heure. Et puis je partais travailler. Et travailler sur la nouvelle formule d'un magazine. J'étais dans une situation particulière. Et en même temps, là aussi, il y a une réalité qui nous rattrape, qui est que la vie avance, qu'elle a ses exigences, qu'elle a son rythme. Et là, le rythme de la reprise d'un travail, d'une activité professionnelle, m'a rattrapé. Je pense souvent aux parents d'enfants handicapés qui, depuis 20, 30 ans, vivent dans ce grand écart-là, en faisant ce grand écart-là, entre un enfant à qui ils doivent beaucoup d'attention et de temps et une vie, un travail qui est extrêmement exigeant.
Comment se sont passés les derniers jours de Claire-Marie ?
Donc Claire-Marie, a été assez mal au fur et à mesure. Et puis, je me souviendrai toujours de ce jour du 13 octobre 2012, où on était à l'hôpital. Parce que ça n'allait vraiment pas bien. Et le médecin l'a déshabillé, lui a posé la main sur la poitrine et lui a tout simplement parlé, en fait. Et le médecin lui a dit « Tu sais, Claire-Marie, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Tu as des parents qui t'aiment infiniment. Tu as des grands frères qui sont fous de toi. » T'as des centaines et des centaines de personnes qui sont là, qui demandent de tes nouvelles, tu existes à leurs yeux, tu vis, tu as vécu et tu vis à leurs yeux. Toi, tu t'es nourri de leur amour. Aujourd'hui, Claire-Marie, si tu le veux, tu sais, tu peux partir. Et c'est là où je me dis quand même qu'il y a quelque chose et que l'enfant, il est conscient de tout ça, il l'entend, il a beau avoir 3 mois et 3 jours. Mais ça, c'était le matin. Et donc, le soir, à 21h, sur les derniers mots de la prière qu'on disait avec ma femme, avec elle, elle a rendu son dernier souffle. Et c'est vrai que c'était très beau parce qu'elle est quand même partie dans les bras de Marie. Quoi.
Ouais. Comme si elle s'autorisait à partir. Et
elle s'est autorisée, je pense. C'est comme ça que rétrospectivement, je l'ai analysée. Elle s'est autorisée à se laisser partir, nourrie de cet amour et forte de celui qu'elle avait donné aussi, parce que je pense que c'était réciproque. Et voilà, c'est vrai que c'était une fin qui était pour elle très belle, presque tout aussi belle que la messe d'enterrement ou cette cathédrale de Meaux archibondée avec plus de 700 personnes m'a fait réaliser à quel point cet enfant avait eu une vie, une vie qui faisait que elle avait vécu, existé, était aimée, et que il y avait cette sainte personne pour l'accompagner.
Une fécondité en fait qui dépassait
dans sa dernière dans sa dernière demeure, comme on dit.
Et vous parliez effectivement de cette prière avec votre épouse. Est-ce que voilà, à un moment, vous en avez quand même un peu voulu à Dieu de vivre tout ça?
Alors, jamais, en fait. J'ai pas... La colère je la gardais pour d'autres choses. Mais j'en ai jamais voulu au ciel de ce que je vivais. En revanche, je l'ai pas mal sollicité au ciel. Je dois dire qu'effectivement, c'est ce qui nous a fait tenir, c'est qu'effectivement on, par la prière, on le sentait vraiment, on était soutenu, et puis il y avait plein de petits signes qui faisaient que le ciel rejoignait la terre tous les jours, et que tous les jours on en avait des preuves qui brillaient un peu comme des pépites, quoi. Mais ça a jamais été, j'ai jamais eu de colère ni de ressentiment particulier. Parfois je l'ai secoué en lui disant là faut que tu te bouges, faut que tu nous aides, etc. Mais c'est plus comme on parle à un ami à qui on dit écoute, là il faudrait que tu viennes me donner un coup de main. Parce que là, je m'en sors pas tout seul, et que est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider à porter. Mais aucune colère et aucune. J'ai jamais été fâché avec le petit Jésus, comme dirait un ami.
est-ce que presque au contraire, ça a ancré d'autant plus votre vie de prière, ou avant même cette épreuve?
Alors, c'est vrai que ça l'a fortifié, ça l'a assuré. Ça l'a conforté, mais c'est vrai que j'ai cette chance d'être nourri par la foi que j'ai reçue et qui s'est enrichi avec le temps depuis bien longtemps. Donc j'ai pas eu le sentiment que ça avait réveiller quelque chose. En revanche, ça l'a conforté, enrichi, nourri, alimenté. Ça, c'est sûr. Et même si, en fait, je me disais souvent que tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu aussi, et notamment nos décisions. La décision, par exemple, de laisser la vie à cet enfant n'avait rien de religieux ou d'une conviction, bien évidemment que ça rejoint ma foi, qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie, qui la laisse vivre, qui ne la reprend pas. Mais en fait, c'est plus, c'est humain, c'était humain, c'est ce qu'on expliquait à ce médecin le jour de notre échographie. La première échographie, c'est quand il nous disait pas de dogmatisme, nous ne sommes pas dans le dogmatisme en laissant la vie grandir dans le sein de sa maman et ensuite au grand air. La vie, elle est, point.
Et
je crois qu'il n'y a pas besoin de la foi pour le vivre, ça.
Et donc, ça fait un peu plus de 8 ans.
Donc 2012, c'est 8 ans.
Qu'elle est partie. Comment Claire-Marie habite-t-elle encore votre quotidien?
Alors aujourd'hui, Claire-Marie, elle est présente dans notre vie, c'est physique. C'est quelque chose. Ça n'est pas que spirituel, ça n'est pas que une idée ou une photo. Elle est présente physiquement dans notre vie, c'est-à-dire que je lui parle, c'est-à-dire que je la ressens dans ma vie quand on me demande combien d'enfants j'ai, je réfléchis pas une minute. J'ai 8 enfants. Et 8 enfants parce que Claire-Marie vit en nous, avec nous. Voilà. Qu'elle est présente, ça je le sais, du haut du ciel, mais tellement de façon presque voilà, humaine et physique en nous. Bien évidemment, il y a l'absence. Bien évidemment, elle n'est plus là. Mais en même temps, elle est... elle habite nos vies, elle, ça va de des petits échanges qu'on peut avoir avec elle, quand on cherche une place, on lui dit avec Claire-Marie, s'il te plaît, là, si tu peux te débrouiller pour qu'on trouve une place assez rapidement, ça n'a jamais loupé. Mais c'est, donc voilà, ça c'est anecdotique et c'est plutôt, je dis ça plutôt en riant, mais c'est aussi cette phrase qu'on dit tous les soirs, quand on termine notre prière en famille ou en couple, Claire-Marie, prie pour nous et pour tous ceux qui te demandent d'intercéder pour eux, parce qu'on est certain que là-haut, elle bosse comme une dingue et qu'elle n'arrête pas de se préoccuper de ceux qu'elle a laissés et qui l'ont aimée sur Terre. Quoi.
D'accord.
On a, je pense, cette chance de ne pas se poser 2 secondes la question de savoir si... elle n'est pas, si elle est vraiment toujours présente dans notre vie, elle est présente dans notre vie.
Voilà.
C'est, je sais que ça peut perturber et qu'il y a des gens, parfois même voilà, dans notre entourage, des gens que ça chiffonne un peu quand même, qui trouvent que quand même, Claire-Marie prend quand même beaucoup de place, là, vous en parlez beaucoup, etc. Elle est partout, etc. Oui, mais je suis désolé. Ma fille est partout et ma fille est. Et c'est ma vie, et donc elle vit en moi, et voilà. Elle est présente.
Et une super ambassadrice.
Et puis c'est une bonne ambassadrice, ça, voilà. Je la recommande à tout le monde.
Le temps file un peu.
Ouais.
Peut-être une dernière question, mais voilà, toute cette histoire, toute cette épreuve, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir de la paternité ? Enfin, vraiment. Qu'est-ce que vous ne connaissiez pas en vous de père que vous avez connu grâce à cette épreuve ?
Je dirais que ça a pu... cette épreuve-là, presque... Alors, qu'on va appeler épreuve, mais qui est tout simplement une tranche de vie, pour moi, parce que l'épreuve, en fait, on l'oublie. On est vraiment ensuite... quand vous m'avez contacté, je me suis refait réinterroger en me disant, mais j'avais presque oublié que ma fille avait un handicap. Oui. Donc, voilà. Ce que j'ai appris, c'est que... Ben, de ma paternité, j'ai appris que je pouvais... qu'elle était encore plus... élastique et qu'elle pouvait aller encore plus loin, que l'élastique pouvait encore être tiré un peu plus, que je pouvais faire émerger des qualités que j'ignorais même auparavant. Elle m'a appris à m'abandonner davantage, à regarder les choses tout à fait différemment, je pense, d'avant. On apprend à relativiser les petits bobos de la vie, c'est pas grave, c'est pas bien, c'est pas gênant. On apprend à regarder devant, on apprend à regarder le beau, on apprend à regarder ce qui donne la vie, ce qui la transcende, ce qui la fait fleurir. Et on n'est plus du coup tellement porté sur tout ce qui est pas voilà pas très intéressant, tout ce qui est polémique, tout ce qui est air du temps, etc. C'est pas forcément ce qui après voilà moi de ma paternité ça m'a fait aussi apprendre la patience. Je sais que parfois j'en ai pas assez, que les devoirs de mes enfants, ça m'a toujours un peu, par exemple, gavé et que je perdais patience très rapidement. Je laissais ça plutôt à ma femme. Alors que ben, prendre le temps qu'il fallait et tenir pour soutenir ma fille, être là, etc. Il était naturel, il est venu tout seul. Voilà, la paternité, je reviendrai à ce que je disais au début, est la même que pour mes garçons. J'ai pas appris particulièrement, mais j'ai découvert peut-être quelle était que ce qui m'habite en tant que père pouvait être révélé par des moments comme cela. Mais que du coup je les ai et qu'aujourd'hui je me dois de les mettre au service de mes garçons aussi pour les aider aussi à grandir. Certains sont aujourd'hui grands, mais c'est plus en fait la découverte de ce qu'on a en soi et qu'on avait un peu mis sous le boisseau ou pas utilisé pour que je puisse aujourd'hui les mettre au profit de tous.
Ouais, j'ai quand même une sorte de révélateur encore.
C'est un révélateur, oui.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste de Fombelle, pour ce témoignage, d'avoir ouvert votre cœur de père sur cette tranche de vie, comme vous l'appelez. Merci infiniment.
Et c'était avec plaisir.
Voilà, c'était le premier épisode de La Lumière d'une rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombre et Lumière et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. Vous pouvez aussi approfondir ce thème de la paternité en vous procurant le numéro daté de juillet-août de la revue en allant sur www.ombresetlumieres.fr.